décryptage.
Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à tous où que vous soyez sur la planète. Quand les sportifs mettent leur notoriété au profit d'une cause.
RFI.
Des points levés du Black Power des Américains Tommy Smith et John Carlos lors des JO de 68 au genou à terre du footballeur américain Colin Kaepernick à l'été 2016 pour manifester sa solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Il est aussi farouchement opposé à Donald Trump ou encore, plus récemment, la joueuse japonaise de tennis Naomi Osaka, victorieuse de l'US Open, qui fait du masque une arme politique puisqu'au fur et à mesure de l'avancée du tournoi qu'elle a gagné d'ailleurs, elle arbore à chaque match le nom d'une victime de crimes racistes, d'où cette question du speaker.
Vous dites depuis le début du tournoi que vous avez 7 matchs, 7 masques, 7 noms. Quel est le message que vous voulez nous envoyer, Naomi ?
Eh bien, la question est davantage, quel est le message que vous avez reçu avec le masque ? Je pense que le but est que les gens commencent à en parler.
Des gestes symboliques forts, alors qu'en retient-on ? Ont-ils un réel impact sur les consciences ? Les Américains ont depuis longtemps utilisé les terrains de sport comme terrain politique. Qu'en est-il ailleurs dans le monde ? Autant de questions que nous poserons à nos deux invités. Cécile Kokemokoko, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être ici. Vous êtes professeure de civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis au téléphone avec nous, Sylvain Landa, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur éditorial du laboratoire de pensée sport et citoyenneté. Première question pour vous, Cécile Kokemokoko. Les Afro-Américains ont depuis longtemps finalement utilisé les terrains de sport comme terrain politique.
Au tout début, il s'agissait de l'intégration raciale d'équipes de sport qui étaient traditionnellement réservées aux Blancs, comme ça a pu se voir par la suite pour des équipes sud-africaines, par exemple. Et cette simple présence d'une diversification raciale était déjà une déclaration politique en soi, puisque c'était un acte d'intégration et aussi une prise de position politique de la part des entraîneurs eux-mêmes et des équipes. Ce qui s'est passé dans les années 60, et en particulier l'assassinat de Martin Luther King, a amené justement Smith et Carlos à vouloir prendre position plus avant, à la fois pour demander qu'il y ait davantage d'entraîneurs noirs dans les équipes américaines, et aussi pour demander que soient boycottées la Rhodésie et l'Afrique du Sud en raison de leur politique d'apartheid. Donc ils faisaient partie d'un groupe d'athlètes olympiques qui voulaient contester le positionnement apolitique, mais aussi très trop tolérant à leur avis, du comité olympique. Donc ils ont au début communiqué de manière muette par une symbolique qui était celle du gant noir qui renvoyait au Black Panther avec le poing levé et des chaussettes qui désignaient la pauvreté des habitants des ghettos noirs, mais aussi d'autres populations racisées. Il venait d'y avoir des émeutes à Mexico.
Alors le poing levé, le genou à terre, plus récemment l'affaire Jacob Blake, toujours aux États-Unis, qui a déclenché un boycott historique des joueurs de la ligue de basket, la NBA. Boycott suivi d'ailleurs par d'autres ligues sportives qui ont également cessé la compétition de manière temporaire. Sylvain Landa, on a l'impression et le sentiment là qu'on est passé à un cran supplémentaire dans les revendications avec le boycott de championnat.
Oui, c'est intéressant. On était sur une symbolique assez forte et c'est vrai qu'on a l'impression que l'étape supplémentaire a été franchie quand on justement les joueurs se sont posé la question d'arrêter ou non les playoffs. Il y a eu des vastes débats, je pense, et c'est aussi l'étape supplémentaire dans le combat. On dépasse la symbolique qui est déjà très forte de renvoyer un message et je pense que l'image de Tommy Smith et de John Carlos, elle est aujourd'hui l'une des images les plus connues du sport dans le monde. Je pense que c'est assez symbolique et ça démontre en fait une prise de conscience vraiment militante des sportifs et des sports aux États-Unis sur ces sujets de société.
Alors, pour être précis, on parle de boycott ou de grève, car les basketteurs sont vraiment salariés et ils ont décidé de ne pas aller travailler.
Effectivement, ça leur a d'ailleurs été reproché par le gendre du président qui estimait qu'ils étaient des privilégiés, qui se permettaient de ne pas aller au travail et de ne pas en subir les conséquences. Le sport, normalement, unifie les Américains autour du divertissement et il est censé être apolitique du point de vue des spectateurs les plus conservateurs. Et c'est pour cela que les athlètes noirs utilisent la possibilité qui leur est donnée d'avoir une exposition médiatique pour se faire les porte-parole de ceux qui sont sans voix politique.
Alors, avec quel impact et finalement, cette question peut être simple, mais qui apporte une réponse plus complexe. Les sportifs ont-ils le droit de faire de la politique, Sylvain Landa?
Ils ont le droit, comme tout un chacun, j'ai envie de répondre. On a souvent un peu pointé du doigt les sportifs qui s'exprimaient, peut-être moins aux États-Unis qu'ailleurs d'ailleurs. On leur disant, voilà, vous jouez, vous tapez dans un ballon, vous êtes grassement payé pour le faire. Ne vous exprimez pas. On a souvent banni ce droit-là, alors qu'ils ils ont le droit d'avoir des opinions et ils sont légitimes aussi pour les porter. Et je pense que ce qu'on voit désormais est aussi peut-être accentué par les réseaux sociaux, par l'expression et la médiatisation maintenant des athlètes fait que je pense que cette barrière est tombée, qu'ils se sentent, à mon avis, un peu plus légitimes pour le faire. Et oui, ils ont le droit de s'exprimer. Ils ont une audience, je pense que c'est important de le souligner. Quand LeBron James, le basketteur américain, s'exprime, il parle à des millions de personnes sur les réseaux sociaux et il leur parle directement. Il n'y a plus le filtre du média, de la franchise, de son club de sport. Et c'est une image qui fait le tour du monde en quelques secondes. Et ça a un impact fort et je pense que les sportifs l'ont compris et l'expriment et l'ont exprimé là ces dernières semaines et continueront, je pense, de l'exprimer parce qu'on est dans un processus qui réduit justement le temps de diffusion d'informations.
Cécile Coquet-Mokoko.
S'agissant des sportifs américains, il y a aussi le droit sacro-saint à exprimer son opinion librement. C'est un droit qui est inscrit au premier amendement de la Constitution et qui a été mis en porte-à-faux avec la question du patriotisme lorsque Donald Trump s'est insurgé contre le genou à terre dès le mois d'août 2016, puisqu'il était à cette époque-là lui-même en campagne. Or, Colin Kaepernick a bien insisté sur le fait que le genou à terre était un signe de respect pour le drapeau américain et pour tous ceux qui étaient morts, précisément pour que tous les Américains, y compris ceux qui étaient racisés et opprimés, puissent exprimer leur opinion politique.
Une référence tout de même, quand je vous ai posé cette question, à savoir si les sportifs avaient le droit de faire la politique, l'article 50 de la charte olympique qui justement stipule qu'aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Alors maintenant, intéressons-nous un peu à l'impact de toutes ces prises de position. Si on prend l'exemple de Colin Kaepernick qui s'est opposé à Donald Trump, on voit par exemple que Donald Trump est devenu président. La lutte contre le racisme a-t-elle évolué à travers tous ces actes, Sylvain Landa?
C'est vrai que quand on compare cela, et on peut prendre un exemple aussi en France, en 98, le mouvement un peu Black Blanc Beur, après la victoire de l'équipe de France de football, quelques années plus tard, on se retrouve avec le Front National au second tour de l'élection présidentielle. Donc oui, il y a un impact qui peut paraître limité. Néanmoins, je trouve que c'est aussi révélateur de l'implication des sportifs. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont une caisse de résonance qui est beaucoup plus forte, peut-être qu'avant. Et je pense qu'ils peuvent agir comme être des acteurs d'influence d'être de plus en plus influents parce que, encore une fois, ils parlent directement à des millions de personnes et ils leur parlent instantanément. Et ça a changé. Au-delà de ça, je pense qu'il y a beaucoup de clubs de sportifs, mais aussi de clubs de supporters qui s'engagent très concrètement sur le terrain dans la lutte contre le racisme. Il y a aussi cette partie un petit peu du sujet qu'on occulte quand on parle du sujet. Oui, il y a des problèmes de racisme dans le sport. Oui, il y a aussi beaucoup d'acteurs, de supporters notamment, qui s'impliquent très directement là-dedans.
Et j'ajouterais à cela que les sportifs incarnent aussi de plus en plus des marques. Et les marques visent un public jeune, un public international et veulent incarner une idée de progrès. Le contrat de Nike avec Colin Kaepernick a été un exemple assez probant de ce sauvetage en quelque sorte d'un sportif dont la carrière était menacée.
Comment expliquez-vous qu'ailleurs dans le monde, on prenait l'exemple américain, on prend l'Europe, le continent africain, la France, il y ait moins de sportifs audibles dans leur prise de position politique?
Je dirais qu'en France, la question des relations raciales est extrêmement épineuse, elle est difficile à penser, alors qu'aux États-Unis, je pourrais dire qu'elle va de soi et qu'elle n'est pas niée. La question du patriotisme en France se pose hors de la question de la couleur. Et je pense qu'il y a une difficulté à briser ce tabou pour nos sportifs.
Les sportifs en France ne sont pas pris au sérieux, c'est ce qu'affirme Stanislas Franquiel. Il est historien du sport, maître de conférence à l'université d'Artois. Vous en pensez quoi, Sylvain Landa ?
Je suis assez d'accord. On est dans un pays aussi qui a longtemps opposé le corps et l'esprit. Au final, on limite un peu la place et la position du sportif. Elle se limitait aux portes du stade et on leur niait un petit peu le fait d'avoir ou le droit d'avoir une opinion. C'est quelque chose de très ancré depuis très, très longtemps hein, dans la place du sport. C'est un peu cette vision coubertinienne hein, de Pierre de Coubertin, le fondateur de l'Olympisme qui prévaut quand on parle de ça. Maintenant, il y a peu aussi, au contraire des États-Unis, des figures aussi très importantes qui sont engagées très tôt, dès les années 60 et même un petit peu avant dans ce combat-là, et avec une culture qui est propre et que Cécile vient de rappeler. Donc je pense qu'on est dans un décalage aussi de société, et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses bougent un petit peu, même si, pour prendre un exemple, quand Kylian Mbappé a réagi à l'affaire Floyd, il a aussi suscité pas mal de moqueries en interne. Donc il y a quand même un changement de paradigme à faire et sur la place, ça interroge un peu la place que l'on accorde aux sportifs dans notre société.
Est-ce que le sportif peut risquer aussi sa carrière en prenant des positions politiques, Cécile Coquet-Mokoko ?
Le coureur australien Peter Norman, qui s'était associé à l'action de Smith et Carlos lors des Jeux Olympiques de 1968, l'a payé effectivement beaucoup plus cher que ses homologues américains, puisque l'Australie a refusé de le laisser concourir aux Jeux Olympiques de 1972, par exemple.
Michael Jordan aussi, qu'on pourra citer. Il y a 30 ans, il n'avait pas soutenu un sénateur noir qui s'était présenté en Caroline. Alors, 30 ans plus tard, là, on vient d'apprendre que justement il allait se lancer dans le sport mécanique puisqu'il a décidé de créer une écurie de NASCAR, et c'est un sport qui est habituellement occupé par des blancs. Donc peut-être aurait-il changé de point de vue. Quand ces sportifs prennent toutes ces positions, est-ce qu'ils s'adressent à un électorat ou ils s'adressent à leurs fans?
Ils s'adressent à leurs fans, mais ces fans peuvent très bien devenir des électeurs. Arnold Schwarzenegger a été élu gouverneur de Californie parce qu'il était un acteur renommé, donc pourquoi pas des sportifs. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure au sujet de la division entre corps et esprit. Je suis entièrement d'accord. Lorsqu'on est aux États-Unis et qu'on enseigne en université, les sportifs de haut niveau sont considérés avec le plus grand respect intellectuel. Et mes étudiants étaient extrêmement choqués lorsqu'ils faisaient partie des équipes de sportifs de haut niveau de constater qu'en France, on avait cette dichotomie.
Dichotomie que vous partagez, Sylvain Landa ?
Oui, je suis d'accord avec ça. L'apport qui est réservé l'intérêt qui est réservé aux sportifs diffère vraiment, et on le voit dans les réactions justement aux prises de position. On se moque facilement, même l'image que les médias ont renvoyée aussi dans le passé par des sportifs de haut niveau, ne serait-ce que l'exemple des guignols de l'info qui ont vraiment caricaturé aussi les sportifs comme des gentils idiots, on va dire. Tout ça fait que aussi peut-être que les sportifs français inconsciemment ou en tout cas sont moins farouches dans la prise de position, et ça peut entraîner ce sentiment-là. Pour en revenir sur le fait de s'adresser à des fans ou à des électeurs, je pense que c'est un vrai point intéressant, d'autant plus que l'élection américaine approche. Je pense que les sportifs américains s'adressent aussi à des publics qui sont peut-être moins traditionnellement, qui se déplacent moins traditionnellement pour voter, qui sont issus des minorités notamment, et c'est aussi peut-être un public qui peut faire la différence sur une élection qu'on annonce assez serrée.
Vous vouliez réagir ?
Entièrement d'accord. C'est vrai que les électeurs entre 18 et 25 ans aux États-Unis sont ceux qui se déplacent le moins. Et là, le taux de participation va être absolument crucial pour ces élections.
Avez-vous travaillé aussi sur les sportifs qui côtoient leurs fans dans les tribunes et les supporters? Je fais référence là au football, où l'on entend parfois des cris indignes, racistes, des banderoles ignobles, alors que sur le terrain, ils viennent soutenir quelqu'un qui défend le racisme. Cet antagonisme, vous l'avez étudié aussi ?
On le voit aussi dans les tribunes aux États-Unis, lorsque l'hymne est joué et que les spectateurs entre eux s'insultent et tentent de s'intimider. Le moment précis où le jeu commence est une sorte de trêve, pratiquement une trêve olympique. Mais les divisions et les tensions reprennent leur droit aussitôt. Il y a une espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire que on met en quelque sorte ces connexions entre parenthèses. On ne voit pas ses propres contradictions au moment où on est pris par la passion du jeu et de l'action.
Sylvain Landa, même question.
Oui, c'est malheureusement le reflet de ce qu'il y a en dehors du stade. Le stade n'est pas non plus un endroit, un écrin où rien ne se passe. Je pense que malheureusement, c'est aussi un lieu qui peut servir de défouloir à certains pour exprimer tout un tas de messages homophobes, racistes, et j'en passe. C'est des choses qu'on revoit un petit peu sur les réseaux sociaux désormais, où on a le sentiment un peu d'impunité. Je pense que c'est aussi ça qui prévaut autour du stade. Maintenant, comme je le disais, il y a aussi des initiatives qui sont importantes, d'autres acteurs, de groupes de supporters aussi. Et je pense qu'il faut vraiment faire preuve de la plus grande fermeté et accompagner les clubs et les acteurs à lutter contre ces phénomènes, parce que c'est justement quelquefois des minorités qui jettent un peu le discrédit sur une majorité qui soutient plutôt ces causes.
Finalement, l'acte politique ultime, son aboutissement, n'est-ce pas de faire de la politique et de se présenter devant les électeurs au suffrage universel? Je pense à d'anciens sportifs devenus politiques, George Weah, ancien attaquant du PSG, président du Liberia, Marat Safin en Russie, ancien numéro 1 du tennis mondial, élu député aux côtés de Vladimir Poutine. J'en oublie, le sportif doit-il rester sportif ou alors faire de la politique pour faire avancer ses idées?
Il y a de nombreuses façons de faire de la politique. Pour pouvoir se faire élire, il faut amasser un certain nombre, une sorte de caisse de guerre, et amasser un certain nombre de supporters. Il y a aussi, dans beaucoup de pays africains, les questions ethniques, vis-à-vis desquelles il faut avoir énormément de tact et de doigté. Mais par exemple, ce que fait Lilian Thuram autour de la sensibilisation du public et des jeunes aux questions de racisme est extrêmement important et politique au sens large et noble du terme.
Vicage Dorasso aussi.
Exactement. Donc, par exemple, l'exposition sur l'invention du sauvage qui avait été organisée au musée du Quai Branly avec le soutien de Lilian Thuram avait été un acte politique très fort.
Là aussi, est-ce que l'acte politique passe par une élection ou même par d'autres formes de politique comme la création d'une association, Sylvain Landa?
Je suis assez d'accord avec Cécile sur ce point. On peut faire de la politique de différentes façons. L'engagement politique, il est alloué de toute façon, je trouve, dans une situation aujourd'hui où on pointe facilement du doigt le responsable politique. Je pense que c'est une façon de le faire. Il y a plein d'autres façons de s'engager. Et Lilian Thuram est un formidable exemple d'engagement citoyen. Et c'est quelque chose qui est important de souligner. Est-ce que ça doit passer par la prise de pouvoir? Oui, je pense. Souvent, quand les sportifs ont aussi une notoriété folle, notamment sur le continent africain, où ce sont des formidables icônes. Donc c'est aussi quelque chose qui est important, mais c'est pas non plus un facteur de réussite. Et il y a des anciens sportifs qui ont pu prendre des décisions qui sont pas forcément les meilleures quand ils ont accédé au pouvoir. Donc je pense qu'il faut pas non plus simplement voir ça comme une issue bien heureuse, mais plutôt de louer un peu tous les engagements qui font de la politique au sens noble du terme.
Et puis enfin, je citerai Megan Rapinoe, bien plus qu'une joueuse de foot, l'attaquante américaine championne du monde, défend les minorités LGBT. À vous, ne pas fermer la porte, elle a une carrière politique. C'est la fin de ce décryptage. Merci Cécile Coquet-Mokoko, professeure de civilisation américaine, Sylvain Landa, directeur éditorial d'un laboratoire de pensée, sport et citoyenneté. Merci également à Hélène Avril, Éléonore Krenik, Charles Barre, Patrick Adam qui m'ont aidé à préparer cette émission. Demain, vous retrouverez Loïc Bussière sur RFI pour un nouveau décryptage.